Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donald Trump espère obtenir in fine le soutien des Palestiniens. Il présentera cet après-midi son plan de paix pour le Proche-Orient, mais il n'a invité à la Maison-Blanche que les représentants israéliens. Parole du président américain dans un instant et reportage en Cisjordanie. Deux échos du plan très différents.
Et puis dans ce journal, nous irons aussi en Turquie où des milliers d'enseignants et de chercheurs ont été limogés ces dernières années. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit examiner ce mardi le cas de la Turquie.
Gérald Darmanin est candidat au municipal à Tourcoing. Le ministre y est même tête de liste et il pourrait donc quitter le gouvernement en cas de victoire.
Et puis 800 anciens salariés de Goodyear à Amiens contestent leur licenciement. Une audience au prud'homme se tient aujourd'hui.
Quand Emmanuel Macron agace la Cour de cassation. Dans le billet politique après cette édition, Frédéric Seyss reviendra sur l'ingérence reprochée dans l'affaire Sarah Halimi. Mais commençons ce journal, une fois n'est pas coutume, à Madagascar. Et cela est si rare de parler de Madagascar que le pays est cité ce matin par un baromètre de l'ONG CARE. Il s'agit du classement des crises les moins médiatisées dans le monde. On y trouve donc le Burundi, la Corée du Nord, le Burkina Faso, mais en première position, Madagascar, où plus de 2 millions de personnes sont en danger ou déplacées, Nathanaël Charbonnier.
À Madagascar, ce n'est pas la guerre qui est à l'origine de la crise et qui pousse les populations à bouger. Non, à Madagascar, le problème est climatique, comme explique le directeur CARE sur l'île, Stéphane Seigna.
Madagascar est particulièrement affecté par notamment des sécheresses. Le nombre de cyclones est en augmentation aussi.
Le sud de Madagascar, touché par le phénomène climatique appelé El Niño, un drame qui passe inaperçu, ou presque, puisque lorsque l'on regarde tous les articles écrits sur le net en français, anglais, allemand, arabe et espagnol, seuls 600 évoquent le sujet. C'est trop peu, explique Philippe Lévesque, président de CARE France.
Une crise qui n'est pas sur les médias est une crise qui n'est pas vue par les politiques. Elle est moins vue également par nous et elle est moins financée par les donateurs privés ou institutionnels.
Pas de reprise médiatique, donc pas de mobilisation à la hauteur et à l'arrivée, pas d'argent, comme le confirme sur place Stéphane Seigna.
On a très peu de visibilité financière et très peu de financement pour permettre de répondre aux besoins immédiats quand il y en a. Et d'autre part aussi pour mettre en place et mettre en œuvre des interventions qui soient plus long terme et qui permettraient d'apporter des moyens aux populations impactées pour qu'elles puissent faire face à ces changements.
Et malgré tout, CARE Madagascar a aidé directement 40 000 personnes et a distribué de la nourriture à plus de 105 000 malgaches l'année dernière.
Les changements climatiques en tête des sources de conflits les moins médiatisées, nous y reviendrons. Et nous reviendrons sur ce baromètre de l'ONG CARE avec son directeur général Philippe Lévesque. Il sera l'invité du journal de midi et demi ce mardi sur France Culture. C'est à 18h, heure française, midi, heure de Washington, que Donald Trump dévoilera les grandes lignes de son plan pour la paix au Proche-Orient. Un processus qui est au point mort depuis 2014, mais sur lequel travaille depuis 3 ans maintenant le gendre du président, Jared Kushner. Hier, Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le chef de l'opposition israélienne Benny Gantz. Il les a informés du contenu de ce plan sur le volet politique, puis il a pris la parole.
Le premier ministre Netanyahou est un grand ami à moi. Et un ami des États-Unis, on a une relation formidable depuis 3 ans. Et de notre côté, nous avons fait beaucoup pour Israël. Ce plan de paix, je crois que Bibi et son opposant Benny Gantz vont l'adorer. Et oui, il l'aime beaucoup. C'est un plan très important pour la paix dans tout le Moyen-Orient. Il faut que les Israéliens et les Palestiniens fassent la paix afin qu'elle s'installe dans toute la région. Ça fait des années que des gens travaillent là-dessus. Je crois qu'on est assez proche d'un résultat, mais il faut que les autres soient d'accord aussi.
Que les autres soient d'accord, comprenez surtout les Palestiniens qui semblent réticents avant l'annonce et qui n'ont pas été conviés d'ailleurs à Washington. La plupart des Palestiniens rejettent le plan américain, comme l'a constaté Alice Froussard, notre correspondante dans les territoires palestiniens.
Devant un café chic du centre-ville, emmitouflé dans un long manteau, Ali Chobita Ramalawi, de 28 ans, le précise. Ce plan, il le rejette quoi qu'il arrive.
Ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on veut nous l'imposer. Moi, je n'accepte pas ça. Ça voudrait dire que l'on perdrait nos droits. Ça serait la fin de la solution à 2 États et la fin d'un État palestinien.
Un deal du siècle, ajoute-t-il, qui n'est qu'un cadeau pour les élections de Donald Trump et Benjamin Netanyahou.
Ils ne font ce plan que pour des raisons internes. L'une est israélienne, l'autre américaine, mais aucune n'est palestinienne.
Sur place, les dirigeants palestiniens ont tous appelé au boycott. Saeb Erekat, secrétaire général de l'OLP, précise que les Palestiniens sont prêts à se retirer des accords d'Oslo et les factions appellent à un jour de rage. Mais Maher Ahmad hausse les épaules. Ce commerçant de 58 ans se dit désabusé.
Tout le monde sait qu'on va payer le prix de quelqu'un qui a fait une erreur et on ne peut rien faire contre. La plupart des gens savent que les manifestations ne changeront rien. Mais les Palestiniens n'aiment pas qu'on leur prenne leur terre ainsi. Et notre pays n'appartient ni à Netanyahou ni à Trump. Il le fait juste car il a le pouvoir. Mais il ne le gardera pas éternellement. Un jour ça changera et on aura nos droits. Ce n'est pas grave si on les a maintenant, ou dans 100 ans, mais on sait faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mauvais.
Une chose est sûre, c'est la paix qui risque de rester en plan.
La Pax Americana au Proche-Orient, de Carter à Trump, c'est aussi un article historique détaillé à retrouver sur notre site franceculture.fr. J'ajoute qu'à l'occasion de ce plan pour la paix au Proche-Orient, le groupe État islamique a communiqué hier. L'organisation djihadiste dit vouloir lancer une nouvelle phase en ciblant Israël. La Turquie sera au cœur d'une réunion de l'ONU au Conseil des droits de l'homme aujourd'hui. Des droits de l'homme qui, à en croire Ankara, ne se seraient jamais portés aussi bien en Turquie qu'aujourd'hui. À y regarder de plus près, pourtant, la réalité semble tout autre. Dans ce régime hyper-présidentiel, la répression vise notamment les enseignants des universités publiques. Ils sont souvent accusés, sans preuve, de soutenir des putschistes ou le terrorisme. Et ils sont nombreux à Nandlower.
6081, c'est le nombre précis d'enseignants et de chercheurs turcs qui ont perdu leur poste à l'université ces dernières années. Être limogé en Turquie, cela veut dire perdre son salaire, sa sécurité sociale, le droit d'enseigner à nouveau dans le public ou le privé. Hülya Dinçer a été licenciée en février 2017 alors qu'elle venait juste de terminer son doctorat en droit à l'université Marmara.
C'est très difficile de se concentrer et de maintenir la motivation pour la recherche dans une situation où vous êtes complètement privé de statut de chercheur ou vous n'avez aucune légitimité institutionnelle. Ce sentiment d'insécurité quant à l'avenir me rend émotionnellement très fragile.
Être limogé, cela signifie aussi que votre passeport est annulé. Vous ne pouvez pas quitter le pays sauf à bénéficier d'une autre nationalité. C'est le cas de Hülya Dinçer qui a pu se rendre à Paris dans le cadre d'une bourse postdoctorale accordée par le programme PAUSE, programme de soutien aux universitaires en danger instauré par le Collège de France. Hülya a travaillé pendant 1 an et 8 mois à l'ENS Paris-Saclay, avant de rentrer il y a 2 mois pour suivre ses recherches au sein d'un institut européen d'Istanbul.
Quand vous partez, c'est vrai que vous avez la possibilité de travailler, d'avoir la tranquillité d'esprit et de trouver les moyens pour faire la recherche. Mais quand vous partez, vous êtes beaucoup plus isolé. C'est vrai qu'ici, en Turquie, il y a une sorte de solidarité entre les universitaires, un soutien régulier qui vous permet de survivre, de garder l'espoir. Oui, ça m'a beaucoup manqué et c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai toujours voulu rentrer.
Être limogé, enfin, c'est n'avoir plus qu'un seul recours, une commission d'état d'urgence qui traîne à se prononcer pour finalement souvent rejeter les requêtes. Celle de Hülya Dinçer est toujours en cours d'examen.
Le bilan dépasse désormais les 100 morts en Chine à cause du coronavirus. Près de 4500 personnes sont contaminées. Le gouvernement chinois a donc décidé de prolonger les vacances des écoliers et des étudiants. Par ailleurs, l'évacuation se prépare pour les Français qui habitent à Wuhan, foyer de l'épidémie en Chine. Le rapatriement est prévu cette semaine et pourrait concerner jusqu'à 500 Français. L'Allemagne, par ailleurs, a annoncé cette nuit avoir identifié un premier cas en Bavière. Eux ne fuient pas un virus, mais un changement de statut. À l'heure du Brexit, les expatriés en Grande-Bretagne ont maintenant 11 mois jusqu'au 31 décembre pour demander le statut de résident qui leur permettra de rester de l'autre côté de la Manche. Cette nouveauté ne semble pas plaire toutefois aux Français, qui sont nombreux à préférer demander directement la nationalité britannique. Rencontre au micro d'Antoine Gignot.
Son passeport, au total, lui a coûté 1800 euros et quelques heures de révision pour le test de culture générale.
Combien de temps les Romains sont restés en Grande-Bretagne ? Quel était le nom de la 6e femme d'Henri VIII ?
Il lui a aussi fallu retracer tous ses voyages à l'étranger depuis 5 ans, mais Aurore Bollier ne regrette pas d'avoir demandé la nationalité britannique. Architecte installée à Londres depuis 9 ans, elle ne voulait pas du statut de résident inventé spécialement pour les expatriés.
C'est trop hybride, trop flou, il me donnait le droit de rester aussi, mais pas le droit de vote. En fait, on n'a pas un citoyen à part entière dans un pays où on paye ses impôts, finalement. C'est un peu dommage.
Dommage et difficile au jour le jour. Le nouveau statut, uniquement vérifiable sur Internet, effraie les propriétaires qui renâclent déjà à louer des logements aux expatriés, explique Nicolas Hatton, fondateur du collectif des 3 millions.
Quand on fait sa demande, on reçoit un email. Et l'email nous dit, voilà, vous avez maintenant un statut. Et dans l'email, c'est aussi marqué, ceci n'est pas une preuve. La preuve, elle est numérique. Sauf que si l'Internet ne marche pas, ça passe plus. Il y aura des discriminations.
Des discriminations qui risquent de faire fuir une partie des expatriés. Ces 4 dernières années, le nombre d'Européens qui quittent le pays a augmenté de 75%.
Je vous rappelle que le Brexit sera symboliquement acté ce vendredi 31 janvier.
Et nous serons avec Les Matins à Londres pour l'évoquer. 8h11, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Gérald Darmanin veut reprendre la mairie de Tourcoing.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics confirme son intention à moins de 2 mois des municipales. Il est donc candidat et il précise dans La Voix du Nord qu'il sera même tête de liste à Tourcoing, Rosalie Lafarge.
Il n'a jamais vraiment quitté Tourcoing, Gérald Darmanin, même depuis qu'il est à Bercy. Il était d'ailleurs encore sur ses terres ce week-end, partagé entre les différentes cérémonies des vœux et le match de foot du samedi soir dans le froid des gradins tourquenois. En campagne, le ministre, je l'ai toujours été, confiait encore dans la presse il y a quelques semaines, celui qui, en 2014, avec l'étiquette UMP, a réussi à ravir la ville aux socialistes. Nommé ministre, Gérald Darmanin a renoncé à son poste de maire en 2017, mais il est resté premier adjoint de Tourcoing et n'a jamais caché sa volonté d'y retourner. À 37 ans, le moment est venu pour celui qu'on classe souvent dans la catégorie des poids lourds du gouvernement. Ce gouvernement, il y reste, le temps de la campagne visiblement, mais il laisse entendre qu'il pourrait en partir en cas de victoire. « Si je suis tête de liste, c'est pour être maire », affirme auprès de La Voix du Nord le sarkozyste devenu macroniste. Et s'il y va en numéro 1, c'est qu'il est assez sûr de lui, à en croire à un ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Pas question de se prendre un deuxième tour, souligne ce proche du président pour qui Gérald Darmanin attendait juste de voir si c'était gagné pour se lancer.
Convaincre.
Lui aussi tâte probablement le terrain. Le Premier ministre Édouard Philippe sera vendredi au Havre, où il a été maire de 2010 à 2017. Il lancera la campagne des municipales dans cette ville où la contestation sociale est vive, surtout contre la réforme des retraites. Une réforme qui doit être examinée par une commission spéciale à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mardi, avant l'arrivée en hémicycle le mois prochain. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui également, les députés se penchent sur un nouveau texte de la majorité. Il est consacré aux violences conjugales. Il doit notamment permettre un signalement du médecin en cas de danger immédiat. Le choix des licenciements n'aurait pas dû se faire en fonction de la seule ancienneté dans l'entreprise, mais aussi des situations personnelles et des qualités professionnelles. À propos du plan social de GMES en 2017, le Conseil d'État a tranché, ce n'était pas légal. Cette décision ouvre la voie à une meilleure indemnisation pour les anciens salariés. L'usine GMES de la Souterraine dans la Creuse avait été reprise pour 1 euro symbolique en septembre 2018, avec 120 emplois conservés sur les 277. Même ambiance, plus au nord, à Amiens, pour un combat toutefois différent. 6 ans après la fermeture de l'usine Goodyear, 832 anciens salariés contestent le motif économique de leur licenciement. Après 10 heures de débat en octobre 2018, les juges au prud'homme, incapables de trancher, avaient réclamé la tenue d'une nouvelle audience. Audience qui débutera ce matin, Élodie Touchet.
Et si l'ancien leader de la CGT, Michael Ouamin, promet de nouveaux chiffres attestant de la très bonne santé financière de Goodyear, les débats ne devraient pas receler beaucoup de surprises. La ligne de défense ou d'attaque des deux parties est identique à celle livrée en 2018, des bénéfices records opposés à une dette abyssale du groupe américain. Identique aussi ce matin, la détermination de ces 832 anciens salariés. C'est une obligation d'être là, estime Stéphane Chevin, le maire de l'UAMEL, licencié après 18 ans, passé à fabriquer des pneus et déterminé comme les autres à aller jusqu'au bout. Pour ces ex-Goodyear, cela signifie être indemnisé et réhabilité aussi. Que la justice reconnaisse qu'ils ne sont pas responsables de la baisse de compétitivité de l'usine amiénoise. Le motif économique était-il justifié pour fermer le site? C'est la question à laquelle devra répondre un juge départiteur. Lors de la première audience, le Conseil des prud'hommes s'était montré incapable de trancher.
L'audience du jour commencera donc à 9h tout à l'heure. Comme un air de déjà-vu dans le nord de Paris, une importante opération d'évacuation du campement de migrants a débuté ce matin, porte d'Aubervilliers. Au moins 1800 personnes y vivent, dans des tentes ou des baraquements de fortune au bord du périphérique. Elles sont emmenées en bus ce matin, dans le calme, dans des gymnases ou des centres d'accueil franciliens. Le préfet de police souligne que les lieux seront ensuite encadrés par des policiers pour qu'il n'y ait pas de réinstallation possible sur le même terrain. C'est tout de même la 60e fois qu'une évacuation de ce type a lieu depuis 2015. Le temps ce mardi sera très agité avec beaucoup de vent et des averses sur quasiment tout le pays, des orages même sur la Normandie ce matin. Seules les côtes près de la Méditerranée seront épargnées par la pluie. Et pour les températures, il faut compter 5 degrés à Lille et à Paris ce matin, 7 à Strasbourg et Rennes, 9 à Lyon et Bordeaux, 13 degrés à Biarritz.
Merci Clara Lecoq-Réal.